Béni soit le Seigneur. Alors je vous invite à lire votre Bible avec moi, dans l'évangile de Marc au chapitre 11 et au verset 20. Dieu veut nous enseigner quelque chose. Vous aimez être enseigné? Ouais. Mardi nous avons vu « Enseigne-nous à prier ». David disait « Enseigne-moi à faire ta volonté ». Il y a des gens qui veulent vraiment faire la volonté de Dieu. Il y a des gens qui veulent comprendre la volonté de Dieu. Et Jésus nous a tout dit. Il a dit « Je vous ai tout annoncé à l'avance ». Donc dans ce texte, nous avons un enseignement pour apprendre à vivre par la foi. Comment vivez-vous votre vie religieuse? Ce n'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais votre vie spirituelle. La vivez-vous d'une manière superficielle, justement religieuse ou spirituelle? Alors lisons avec moi Marc 11, 20, verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Voilà ces quatre mots, je peux vous dire, si on avait compris ces quatre mots, notre vie changerait. « Ayez foi en Dieu » ou « Ayez confiance en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et, les conjonctions dans la Bible, c'est très important qu'on y réfléchisse. Et, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Ce texte où il nous est parlé de cette foi vivante nous indique aussi qu'il faut faire attention avec le pardon. Parce que le pardon, on a tous besoin de pardonner. On a tous des conflits. Est-ce qu'on a tous eu des conflits avec quelqu'un? Qui n'a jamais eu de conflit? On a tous eu des conflits avec l'un, même avec des gens qu'on aime. Est-ce que ça peut arriver d'avoir des conflits avec des gens qu'on aime? Est-ce que ça peut arriver? Mais bien sûr. Donc, ce qui est important, c'est de pardonner. J'espère que vous vivez dans le pardon. Si vous ne vivez pas dans le pardon, vous pouvez repartir. Voilà, ça, je comprendrai très bien. Si vous ne voulez pas vivre dans le pardon, ce n'est même pas la peine que vous abordiez ce sujet avec moi sur la véritable foi. Il y a des chrétiens qui se disent « Oui, mais j'ai eu un conflit. » Eh bien, il faut le régler. Il ne faut pas avoir peur de dire « Voilà, je vous demande pardon. Voilà, on s'est attrapé, ceci, cela. » Alors, c'est un sujet bien compliqué que le sujet du pardon, mais quand même, il faut vraiment vivre dans le pardon. Ce texte où Jésus a permis un jour, par rapport à une situation qui représentait Israël, parce que le figuier représente Israël, je ne vais pas rentrer dans ce sujet, mais Jésus a maudit un figuier, il a maudit un arbre qui aurait dû porter du fruit, mais qui n'en portait pas, etc., etc. Donc, le lendemain, il passe devant cet arbre et Pierre se rend compte que l'arbre qui a été maudit a complètement séché. C'est pour ça que Pierre dit « Regarde, maître, le figuier que tu as maudit a séché. » Donc, ça représentait la malédiction qui allait venir sur Israël parce qu'ils n'ont pas porté du fruit alors qu'ils auraient dû en porter. Mais pour nous qui sommes chrétiens, ou qui voulons l'être, ou qui le devenons, il y a un enseignement qui est important par rapport à la façon dont on peut faire des expériences avec Dieu, des expériences bien sûr qui correspondent à la volonté de Dieu, car je crois que quelqu'un de normal ne peut que comprendre que lorsque Jésus dit « tout ce que vous demanderez en priant », il va de soi que ce que nous allons demander ne peut que correspondre à la volonté de Dieu. Mais je vous pose une question pour commencer. Je nous pose une question. Qui veut vraiment être touché par la grâce de Dieu? Moi, je veux être. Parce que c'est bon, ce que je prêche, que Dieu ne veut pas me baigner. Comment êtes-vous venu ce soir? Comment sommes-nous venus? Pourquoi sommes-nous venus dans ce lieu? Est-ce que vous avez de l'espérance? Ou est-ce que vous avez une fausse espérance? Parce qu'il y a des gens, comme on le disait un peu tout à l'heure, quand ils espèrent que c'est vrai. L'autre jour, quelqu'un me disait, lors de l'ensevelissement, « Mais vous espérez vraiment ?» J'ai dit, « Qu'est-ce que vous entendez par là ?»« Mais vous avez vraiment de l'espérance ?» J'ai dit, « Non, je sais que c'est vrai. » Il y a des gens, quand ils espèrent, voyez, ils aimeraient croire que c'est peut-être vrai. Lorsque la Bible parle d'une espérance vivante, c'est qu'il y a une conviction profonde par rapport aux choses que Jésus dit. Et il y a beaucoup de gens qui ont une fausse espérance. Moi, c'est quelque chose de presque qui m'a étonné lorsque j'ai découvert l'Évangile, que même dans nos églises, il y a des gens qui ont une espérance qui est morte. C'est une espérance, comment dirais-je, religieuse, mais ce n'est pas une véritable espérance. Donc, on peut venir dans un lieu comme celui-ci de plusieurs façons, avec une soif vraiment de dire, moi je veux que Dieu me parle, j'ai besoin que Dieu me parle, j'ai besoin d'une réponse, ou alors on peut venir par superstition, par religiosité, par routine, par croyance, comme un jour quelqu'un me disait, moi je viens à l'église parce que le jeudi soir il n'y a pas grand monde, alors je viens pour vous faire plaisir, merci, etc. Bon, mais c'est bien, mais je ne crois pas que c'est comme ça qu'on vient dans la maison du Seigneur. On vient dans la maison du Seigneur pour entendre quelque chose qui va nous permettre de réaliser ce que Dieu attend. Parce que Dieu attend certaines choses. Est-ce que vous savez que Dieu attend certaines choses de votre vie? Alors la Bible dit qu'il y a une seule foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et en plus, le verdict est clair, l'homme vivra par sa foi. Vous avez besoin de la foi des autres. Est-ce que c'est bien de marcher avec des gens qui ont la foi? Oui. C'est bien de communiquer avec des gens qui ont une véritable foi. C'est beaucoup plus difficile de vivre avec des gens qui sont dans l'impiété. Ça vous arrive de passer du temps avec des gens qui sont impies? Est-ce que ça vous arrive? Qu'est-ce que vous préférez? Discuter avec des impies ou discuter avec des gens qui ont une véritable foi? Bon, normalement, dites-moi avec qui vous aimez discuter, je vous dirai qui vous êtes. Hein? Mais on peut traverser des moments difficiles, on peut traverser des tempêtes, on peut traverser des épreuves. On peut traverser des moments très difficiles. Même si on est d'accord avec tout ce que je vous dis, il n'empêche que l'on peut traverser des moments pénibles où on peut se retrouver dans la peur. Est-ce que ça peut arriver de se retrouver dans la peur? Est-ce que le roi David a eu peur? Est-ce que le grand roi David, cet homme de Dieu hors pair, a eu peur? Oui, il a eu peur. Quand vous lisez les psaumes, vous êtes étonné de voir que cet homme, est-ce qu'il a eu des angoisses? Ben oui, etc. Donc on peut avoir des moments de crainte, on peut avoir des moments de peur parce qu'il y a des problèmes, parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a des gens qui nous entourent qui peuvent être négatifs. Est-ce que ça arrive ça? Moi je connais des gens, mais moi je travaille qu'avec des païens, ils sont tout le temps avec des paroles négatives, c'est dur, ça doit être dur de travailler, d'être qu'avec des gens négatifs. Franchement, ça ne doit pas être facile. On peut traverser des moments difficiles parce qu'il n'y a pas que les gens. Il y a aussi les puissances de ténèbres, il y a aussi le diable qui cherche à nous décourager. Est-ce que c'est écrit que le diable est un voleur, il cherche à détruire, à dérober, à égorger? Vous savez, ça représente ce qui se passe au niveau de l'âme, combien des gens peuvent être détruits, etc. La Bible, Jésus a dit, le diable, il vient que pour une chose. Dérober, c'est-à-dire voler ce que Dieu nous a donné. C'est beau d'avoir la paix, par exemple, la paix. Est-ce que c'est bien quand Dieu vous donne la paix? Est-ce que vous l'avez déjà perdu, la paix? Moi, je peux vous dire que c'est une chose que je ne supporte pas. Perdre la paix. On peut la perdre, la paix. On s'est mal comporté avec quelqu'un, et voilà, et il n'en faut pas beaucoup plus pour perdre la paix. Mais ce soir, nous ne sommes pas venus pour nous perdre la paix, nous sommes venus pour nous approcher de Dieu. Et vous connaissez la promesse, approchez-vous de lui, et il s'approchera de vous. Donc, quand vous lisez la parole de Dieu, normalement, qu'est-ce que c'est qui vous a touché? Tiens, les premières fois, vous avez lu la parole de Dieu. Allez, comme on n'est pas nombreux, on peut parler. Vous pouvez répondre. Il y a des gens qui sont touchés par quoi quand ils lisent la Bible? Par exemple, oui, par l'amour. Est-ce qu'on peut être touché par l'amour de Dieu? Ben oui, comme un Dieu même, moi qui suis un pécheur, il y a ça. L'amour a attiré énormément de gens à Dieu. Les promesses de Dieu, est-ce que ça peut toucher quelqu'un? Moi, j'ai été étonné de voir que dans la Bible, il y avait autant de promesses. C'est qu'il y a des avertissements, il y a des reproches, il y a des paroles très sévères, etc. Mais la Bible est remplie de promesses. Et si Dieu a fait des promesses, parce que l'homme, lui, il est capable de faire une promesse et de ne pas la tenir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez fait des promesses que vous n'avez pas tenues? Allez, est-ce que vous avez été comme moi? Dites-moi la vérité. Oui, on a tous fait des promesses qu'on n'a pas tenues, soyons honnêtes. Mais quand Dieu fait des promesses, il les accomplit. Et si Dieu fait des promesses dans sa parole, croyez-moi, c'est pour qu'elles s'accomplissent. S'il n'avait pas voulu qu'elles s'accomplissent, il ne les aurait pas faites. Ça, il faut le comprendre. Parce que ne prenons pas le risque de comparer Dieu à un homme. L'homme ne peut pas. L'homme regrette ce qu'il a dit souvent. Ça vous est déjà arrêté de dire oh, si j'avais su. Ça vous est jamais arrivé de dire si j'avais su, ça je ne l'aurais pas dit. Oh, ça vous est jamais arrivé? Combien de fois, moi, avec mon épouse, j'ai pu lui dire « si j'avais su, j'aurais pas dit ». C'est vrai. Mais par contre, Dieu, quand il dit quelque chose, il le dit, c'est intelligent, c'est sage, il doit le dire, c'est vraiment utile. Dieu a fait des promesses de guérison, des promesses de paix, je parlais de paix tout à l'heure, des promesses de pardon, qu'est-ce que c'est bien d'être pardonné, des promesses de repos, des promesses de restauration. Voilà, on pourrait multiplier toutes les catégories de promesses. Il les a faites, et il sait ce qu'il dit, et il sait ce qu'il doit dire. Il ne dit pas les choses pour les dire. Quand Jésus a maudit le figuier, et que cette histoire que nous avons lue s'est passée, c'est parce que Dieu veut nous enseigner à vraiment vivre par la foi. La foi, est-ce que vous voulez que votre foi augmente? Bon, c'est certainement une des raisons pour laquelle on est là ce soir. Moi, je suis persuadé que si on disait au Seigneur, « Seigneur, augmente-moi la foi », si le Seigneur pouvait nous parler directement, nous dit, « Eh bien, lis la parole de Dieu. » Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et il est clair que quelqu'un qui lit la parole, qui lit et qui continue de lire la parole, aura véritablement une foi qui plaît à Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, les montagnes c'est quoi? Qu'est-ce que c'est pour vous les montagnes? Hein? Les Pyrénées ou les Vosges, comme on en a entendu tout à l'heure. Si quelqu'un dit, quelqu'un déjà s'est adressé à qui? À tout le monde. Il n'y a pas une élite, tiens, il y a des gens qui sont capables de faire des exploits parce qu'ils ont une certaine capacité, etc. Non, si quelqu'un dont s'est adressé à tout le monde. Cette parole, elle est adressée à chacun d'entre nous. N'importe qui doit se sentir interpellé par la parole de Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, une montagne, bien sûr, ça représente les choses immuables de Dieu, oui, et en même temps, ça représente aussi les problèmes, les gros problèmes, parce qu'il y a des petites taupinières, j'en conviens, il y a des petits problèmes, mais il y a des problèmes que l'on peut, puisque c'est biblique, comparer à des montagnes. Et ça peut arriver que l'on se débatte avec un problème depuis des semaines, depuis des mois et depuis des années. Moi, je vois des gens qui me disent, moi, ça fait des années que je me débats avec un problème. Vous voyez, j'ai traversé le deuil, vous le savez. Moi, j'ai vu des gens, au bout de trois ans, qui me disaient, je suis encore dans le deuil, je suis dans le chagrin tout le temps. Vous voyez, c'est... Alors, est-ce qu'on peut juger la personne? Non, mais moi, je crois qu'à un moment donné... Il faut bannir le chagrin. Est-ce que c'est écrit, bannir le chagrin? Je voyais des choses, il y a des choses, c'est normal d'être dans le deuil quelques jours, quelques semaines. Mais quand vous voyez quelqu'un au bout de 3 ans qui est toujours dans le deuil, moi je vous avoue que ça me fait peur par rapport à la compréhension des choses spirituelles par rapport à ces gens. Donc il y a des gens qui se débattent avec des problèmes et Jésus n'a pas donné cet enseignement, pour montrer qu'il savait faire les choses, il n'avait pas besoin de se montrer, surtout pas. Mais il a voulu que l'on comprenne que même ces problèmes, ces gros problèmes que nous traversons tous, nous pouvons par la foi voir la grâce de Dieu s'en charger. Et c'est ça qu'il faut comprendre ce soir. Alors, si quelqu'un dit, alors il y a des gens, des fois, me disent, ah mais est-ce qu'il y a des prières à apprendre par cœur? Ça m'est arrivé à une époque. Je me souviens une fois, il y a longtemps de ça, il y a une dame, je crois que c'était Albi, j'étais jeune pasteur, elle me dit, écoutez, monsieur Goumont, je ne sais pas prier, écrivez-moi une prière. Alors moi, je prends un papier, vous savez, j'étais jeune, hein, et je commence à écrire une prière, et puis je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, écoutez, non, je prends le papier, je le déchire. Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, parce qu'il n'y a pas de formule. Il ne faut surtout pas penser qu'il y a des mots à réciter, des formules à présenter aux gens. Quand quelqu'un dit, ce n'est pas une question de vocabulaire. D'ailleurs, Jésus l'a dit, quand vous priez, ne priez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Donc, il ne faut surtout pas penser qu'il y a des mots, des formules, des prières, des redites, des vaines redites qui permettraient d'obtenir la bénédiction de l'Éternel. Ce ne sont pas nos mots qui impressionnent le Seigneur. Et vous le savez, ce n'est pas le vocabulaire qui impressionne le Seigneur. Une prédication, est-ce qu'elle est belle parce que le vocabulaire a été beau? Est-ce qu'elle est belle parce que le pasteur a l'art oratoire? Est-ce que c'est ça qui fait une belle prédication? Non, je pense que tout ce qu'on peut améliorer, il faut le faire. Mais Dieu ne regarde pas aux paroles, Dieu regarde au cœur. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas une question de vocabulaire. Ce qui est important, ce n'est pas les mots. Ce qui est important, c'est notre foi, ce qui est dans notre cœur. D'ailleurs, si vous avez la Bible toujours ouverte, on le voit bien. Si quelqu'un dit, mais il dit bien, et s'il ne doute pas dans son cœur. Donc, on voit bien que ça commence dans le cœur. Ce n'est pas une question de vocabulaire. Il y a des gens qui savent très, très, très bien s'exprimer et faire de très, très belles prières, mais ils n'ont pas la foi. Et ce que Dieu veut, c'est que nous ayons une véritable foi. C'est pour ça qu'il dit s'il ne doute pas dans son cœur. On peut être très maladroit et en même temps avoir plein d'assurance. Ce n'est pas parce qu'on bafouille. Voilà. Il y a des gens qui s'imaginent que, même là, les décibels, est-ce que quelqu'un qui prie fort a forcément une grande foi? Moi, au contraire, ça m'ennuie, ça m'agace, les gens qui prient fort, trop fort. Ça, c'est une perception, mais je me souviens, il y a une fois, on était dans une église, et mon épouse a dû dire à quelqu'un, mais pourquoi vous criez? Dieu n'est pas sourd, vous voyez? Et le gars, on lui avait dit que s'il criait, eh bien, c'était qu'il avait la foi. Vous voyez, comme quoi on peut être mal enseigné et c'est pas parce qu'on crie que Dieu entend mieux. Je pense qu'on peut prier dans son cœur. Est-ce qu'on peut prier dans son cœur? Est-ce qu'on a besoin de parler, d'exprimer des mots pour prier? Bien sûr que non, on peut prier dans son cœur. Anne, elle ne faisait que remuer les lèvres. Elle priait dans son cœur. Et vous avez vu comment Dieu a entendu sa prière. En tous les cas, c'est important de comprendre, Jésus le dit dans ce texte, et s'il ne doute pas dans son cœur. L'assurance, elle ne vient pas de l'extérieur. L'assurance, elle vient à l'intérieur. S'il ne doute pas. Et le Seigneur sait que l'on peut douter. Il y a plein de choses qui provoquent le doute. Le doute peut nous assaillir de tous les côtés. Je parlais des amis tout à l'heure, des gens autour de vous. Je ne sais pas si... Est-ce que vous êtes influencé par les gens qui sont autour de vous? C'est une question sérieuse, c'est pas une question de pour démasquer de la faiblesse, mais quand même on est continuellement avec des gens. Et si on est continuellement avec des gens négatifs, continuellement entouré d'incrédules et de païens, moi je connais des chrétiens qui ont eu du mal à avoir la victoire au niveau du vocabulaire. Mais tu comprends, moi je travaille avec des ouvriers, j'entends tout le temps de la grossièreté et il m'arrive régulièrement d'être vulgaire. Il n'arrivait pas, le gars, à prendre la victoire sur le vocabulaire. Vous voyez, on ne l'a pas le jugé. Bien sûr, je crois qu'il a besoin d'une victoire. Parce que je crois que le Saint-Esprit nous aide à prendre des victoires. Mais moi, je sais, parce que Jésus en parle, s'il ne doute pas, ça veut bien dire qu'il y a des choses autour de nous qui peuvent nous faire douter. Oui, il y a des paroles négatives. Il y a des gens, ils ne font que se plaindre. Moi, il y a des gens, quand le téléphone sonne, quand j'entends la voix, je sais... Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je sais. Ouais, j'ai mal dormi, ouais, et il pleut. Il y a des gens, dès qu'ils parlent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, dès qu'ils parlent, c'est pour se plaindre, c'est pour gémir, c'est pour râler. Peut-être que ça, vous en connaissez pas, mais je peux vous dire que ça existe. Des gens qui ne font que râler et que gémir. Et le problème, c'est que ces gens-là, en fin de compte, vous savez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça fait que si vous êtes entouré que de gens négatifs, que de gens tristes, que de gens amers, que de gens qui se plaignent, et bien au bout de quelques heures, ça peut vous influencer et vous amener à vivre dans le même état d'esprit que c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que votre foi ne vacille pas, quels que soient les gens avec qui vous êtes. C'est tant mieux si vous êtes avec des gens bien, mais même si vous êtes avec des gens qui ne vont pas bien, nous devons travailler à garder une foi vivante. En tous les cas, il y a une foi que Dieu veut, une foi que Dieu demande, puisqu'il dit « Ayez foi en Dieu ». Quatre mots. Ces quatre mots, moi je peux vous dire qu'ils m'ont fait beaucoup réfléchir. Il faut faire attention à nos paroles. Il faut faire attention. Est-ce que vous faites attention à vos paroles quand vous parlez? Alors dites-moi, est-ce que vous faites attention à ne pas blesser? Ah, c'est plus fort que moi, c'est mon caractère. On l'entend ça des fois. Moi, je ne sais pas si c'est intelligent de parler comme ça. Vous croyez que c'est intelligent de trouver... Ah, c'est comme ça. Moi, j'ai hérité ça de mon père, de ma famille. On est tous dans un caractère très, 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 très fort. Voilà, c'est héréditaire. Dites-le au Seigneur, il va vous répondre, vous allez voir. Je pense que ce n'est pas sérieux. Je pense qu'il faut faire attention à ses paroles. En tous les cas, si nous ne faisons pas attention à nos paroles et aux paroles des autres, notre foi, elle faiblira. Il faut veiller, continuellement veiller. Les doutes peuvent venir du mauvais comportement des autres, mais les doutes peuvent venir aussi de notre incrédulité. Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous n'aurons pas cette foi vivante. Je vous avais donné ce témoignage il y a quelques mois. J'avais lu, je crois que c'est dans Proverbe 26, quand il est dit « La malédiction sans cause n'a pas d'effet ». Vous l'avez déjà lu ce texte, la malédiction. Mais moi, je sais que ce verset, il m'a parlé, il m'a fortifié. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Quelques jours après, je vais prier pour une dame qui commençait à venir à l'église, qui était malade, vraiment malade. Et quand j'ai fini de prier pour elle, son père rentre. Son père rentre et ça s'est mal passé. Et cette femme dit à son père, tiens, papa, il y a le pasteur, voilà, tu devrais lui demander. Ah oui, je vais prier pour moi. Je prie pour lui, je lui pose les mains sur lui, je prie avec lui. Et quand je prie, j'ai vraiment, j'aime pas ce mot parce qu'il n'est pas toujours bien compris, j'ai senti les ténèbres. Puis à la fin de la prière, je dis à ce monsieur, mais qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, je suis paysan, je suis un agriculteur. Et sa fille à côté, non, dis-y ce que tu fais, dis-y. Tais-toi, toi, lui dit à sa fille, je suis agriculteur, vous pouvez essayer tout, voilà. Non, dis-y que t'es un sorcier. Ah, j'ai dit, écoutez, monsieur, si vous êtes un sorcier, cette prière ne sera pas exaucée tant que vous ne vous repentirez pas. Ah, mais Dieu, je travaille pour Dieu. J'ai dit, écoutez, vous savez très bien pour qui vous travaillez. Et j'ai dit, voilà, je m'en vais. Mais Dieu n'exercera pas la prière, ça, croyez-moi. Et il m'a regardé d'une façon terrible. Et je suis parti. Quand je suis arrivé à la maison, elle m'appelle. Elle me dit, monsieur Gou, je vous appelle. Mon père, c'est un sorcier. Et tous les gens dont il m'a dit qu'il mourrait, ils sont tous morts. Et il m'a dit que vous alliez mourir. J'ai dit, écoutez, ça m'étonnerait que Dieu... Je me rappelle, j'ai dit mot pour mot. Ça m'étonnerait que Dieu veuille me reprendre de cette façon. Mais je ne m'inquiète pas. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quelques jours avant, j'avais été bouleversé par cette promesse, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Et je vous promets, c'est la vérité. J'ai raccroché et je n'y ai plus jamais repensé. Plus jamais. Et apparemment, je ne suis pas mort. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la parole de Dieu, elle doit produire la foi. Et je vous avoue que c'est une petite expérience que j'ai. On peut lire, voyez ? Tiens, on va le lire. Lise-le avec moi. On peut lire, voyez, pour expliquer vraiment ce qu'est la foi. Je ne vous dis pas ça pour vous raconter une expérience que j'ai pu faire. J'ai dit Proverbe 26, je pense que c'est celui-là. Si je ne me trompe pas. Ouais, Proverbe 26, verset 2. Je vous assure, je crois que le Seigneur avait voulu que je fasse cette expérience. Vous voyez, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a pas d'effet. On ne peut pas toucher quelqu'un qui est sous le sang du Seigneur. Est-ce que vous le croyez, ça ? Est-ce que vous le croyez, qu'on est protégé ? C'est important. Ayez foi en Dieu, voilà, c'est ce petit témoignage, moi, ça m'a vraiment fortifié, parce qu'en plus, j'ai pas eu peur une demi-seconde. Je sais que la malédiction sans cause n'a aucun effet, et que nous avons intérêt à faire attention, justement, aux paroles des autres, à nos paroles, et vivre de ces promesses de Dieu. Je crois que c'est important de méditer la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent, oh, moi, la parole de Dieu, je l'ai déjà lue, je ne la lis pas, mais lisez les évangiles, oh, je les ai déjà lus. Mais moi, je crois qu'on est loin de s'imaginer combien l'homme a besoin de la parole de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Oui, la foi, elle grandit au fur et à mesure que je médite la parole de Dieu. Il faut du temps pour que les choses grandissent. Jésus, combien de temps il a fallu pour former les apôtres ? Il en faut du temps pour former les pasteurs. Combien il en faut pour Jésus ? Combien il a mis de temps pour former les apôtres ? Non, mais minimum. Combien de temps est-il resté avec eux physiquement ? 3 ans, 3 ans et demi. Donc, vous voyez, il y a des choses qui prennent du temps. Il faut accepter le fait que les choses ne se passent pas en quelques jours. Il faut du temps pour que les choses grandissent dans notre cœur. De l'autre côté, c'est normal d'avoir des problèmes. Est-ce que c'est normal d'avoir des problèmes ? Mais bien sûr que c'est normal. De l'autre côté, il faut apprendre à les déposer au pied du Seigneur. De l'autre côté, il faut apprendre ce que Dieu dit des problèmes que nous traversons. comment nous devons gérer les problèmes. Si les montagnes, si Jésus parle des montagnes, c'est normal qu'il y ait des montagnes, des montagnes de problèmes parfois. Ça peut arriver, il ne faut pas commencer à s'énerver parce qu'il y a des problèmes, je ne comprends pas, et j'ai des problèmes. Eh bien oui, Jésus ne dit pas, ce n'est pas normal qu'il y ait des montagnes. Il dit, les montagnes, je vais vous enseigner à les déplacer. Que son nom soit béni. Et cette histoire, elle nous permet de le comprendre vraiment. Les doutes viennent des autres, s'ils nous influencent, de notre mauvaise façon d'appréhender les choses et de ne pas connaître les promesses de Dieu. Les doutes viennent de Satan, j'en ai parlé au début. C'est vrai que s'il peut nous maintenir dans le doute, il le fera. N'oublions pas que c'est sa spécialité de nous détruire, de détruire notre foi, de voler tout ce que Dieu nous a donné. C'est son plaisir. Il aime détruire la foi. Combien de gens ont rétrogradé parce qu'ils ne se sont pas laissés enseigner comme on le fait ce soir. Ils n'ont pas veillé sur les paroles des autres, sur leurs propres paroles, et puis sur les attaques de l'ennemi. Pourquoi Paul dit, mais prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, pour quoi faire? Pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Et c'est pour ça que c'est bien de lire la parole de Dieu. Et moi je sais que c'est quelque chose que je fais, je le fais mécaniquement, je le fais joyeusement, mais dans chaque cas de figure, j'essaie de prendre un verset qui corresponde à ce que l'on me dit. Vous voyez, je donne un exemple. Si je vois des gens qui sont tout avec des paroles inquiètes, ne vous inquiétez de rien. Voilà, c'est pas une méthode. Je crois que c'est un état de cœur de vraiment laisser la parole de Dieu nous envahir. Et je bénis le pasteur qui m'a formé. Je le bénis. Je le bénis, façon de parler, puisqu'il est décédé. Il doit l'être. Quand il m'a dit, Gérard, si tu veux être un bon pasteur, apprendre des versets par cœur. Tous les jours, un verset par cœur. Et j'ai un carnet avec des centaines de versets que je connais par cœur. Et ça m'a beaucoup aidé. Et je suis persuadé que dans cette affaire d'avoir foi en Dieu, on a tout à gagner à apprendre des versets par cœur. À savoir exactement comment réagir chaque fois qu'il y a une épreuve. Alors, comme je dis, il y a les petites bosses. Mais les montagnes... Nous, quand on voit une montagne, on aurait peut-être plutôt envie de la contourner, voilà, écoute, c'est déjà pas mal, je vais passer à côté. Non, le Seigneur, il nous demande, il nous apprend à les déplacer. Alors cette montagne, oui, moi, souvent je me suis dit, pourquoi tu as telle épreuve? Pourquoi tu as tel problème? Parce que quand même, saisissons ces montagnes. On peut quand même en déduire que Dieu a pu permettre qu'elles y soient. Oui ou non? Moi je le pense comme ça. Mais je ne crois pas que Dieu veuille qu'elle s'installe. Je sais qu'il y a des problèmes, ils sont là, ils nous écrasent parfois. Et cette histoire, cet enseignement, nous montre que même si Dieu peut permettre que des montagnes se présentent, il ne faut pas que ces montagnes s'installent. Après avoir partagé, vous voyez, quand Jésus dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Ça veut dire qu'en vérité, c'est Dieu qui va le faire. Parce que la foi, ce n'est pas la foi dans... Il n'est pas écrit, ayez foi dans vos prières. Il y a des gens, ils prient longtemps. Je prie, combien tu pries, toi, Jérémie? Tu pries une heure. Moi, je prie 2 heures. Je caricature, mais on l'a entendu, ça. Je jeûne. Je jeûne 2 fois par semaine. Tu jeûnes combien, toi? Qu'une fois. Je vais vous dire, le gars, il vaut mieux qu'il mange et il vaut mieux qu'il arrête de prier. Parce qu'il n'est pas écrit, ayez foi dans vos prières, ayez foi dans vos jeûnes, ayez foi dans le temps que vous passez en prière. Il est dit, ayez foi en Dieu. Alors, bien sûr que tout ça va générer une vie de prière, tout ça peut nous amener à avoir envie de jeûner, tout ça peut nous amener à vraiment, vraiment avoir une attitude de piété profonde, mais c'est clair. Mais il y a des gens qui font ces choses sans mettre leur confiance en Dieu. Et moi je vous le dis, Jésus aurait pu faire un discours faramineux par rapport à cette histoire de figuier séché. Franchement, qui mieux que lui pouvait refaire un deuxième sermon sur la montagne après cette affaire? 4 mots. Ayez foi en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est ça la foi. Seigneur, je suis seul. Tout à l'heure, peut-être, vous êtes dans la chambre, sous la couette, je ne sais rien. Voilà, vous pouvez... Seigneur, je sais que tu me vois. Est-ce que vous le croyez, ça? Que Dieu vous voit quand vous êtes chez vous tout seul. Mais pourquoi vous le croyez? Vous le sentez? Est-ce que vous le sentez? Parce qu'il l'a dit. Voilà, il n'y a pas besoin de sentir. Moi, combien de fois, il dit, ah, oh, monsieur Gou, ce matin, on a senti la présence de Dieu dans le culte. Et vous? Ah, ben, je dis non. Ah bon? Vous n'avez pas senti? Mais je sais. La Bible dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, tant mieux si on le sent. Moi, ça ne me gêne pas. Mais Dieu l'a dit, c'est la vérité. Parce que les gens qui vivent d'émotions, quand ils ne sentent plus rien, Dieu est parti. Voilà. Vous voyez? Et ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est vraiment le contraire de la véritable foi. Oui, une montagne, Dieu peut la permettre. Ne vous fâchez pas parce que Dieu permet que des problèmes soient parfois aussi gros que de véritables montagnes. Ce que Dieu veut, c'est voir dans votre cœur, dans mon cœur, cette véritable foi. Et croire qu'à la croix, le Seigneur a tout accompli pour nous aider. Est-ce que vous le croyez que sur la croix, Jésus a tout accompli pour nous délivrer du péché? Parce que le péché, ça peut devenir une montagne dont on a besoin d'être délivré. La maladie, est-ce que la maladie, ça peut devenir une montagne? Ben oui, la maladie, lorsqu'on est écrasé par la maladie, il y a des gens, ils sont vraiment malades, ça devient une montagne. Est-ce que Dieu peut nous amener à faire une expérience dans le domaine de la guérison? Moi, je crois que oui. La crainte de la mort. Moi, je vois ma maman qui est partie, elle avait peur de la mort. Quand on en parlait, je voyais qu'elle en avait peur. Et quand elle a fait cette rupture d'anévrisme, cet AVC, elle était là, les derniers jours, elle n'avait plus peur. Pourquoi? Eh bien parce que je crois que ce que Dieu dit est vrai. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce qu'au moment où on doit traverser telle épreuve, eh bien Dieu nous donne la grâce dont on a besoin à ce moment-là. Il ne va pas vous donner quelque chose si vous n'en avez pas besoin aujourd'hui. Si vous en avez besoin dans 20 ans, il vous le donnera dans 20 ans. Je ne vois pas pourquoi il vous le donnerait aujourd'hui. Est-ce que vous faites confiance à la préscience de Dieu? Vous voyez? Et j'ai vu que ma mère n'avait absolument pas peur. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu, il s'occupe de nous. Ayez foi en Dieu. Alors ne vous énervez pas après les gens, ne vous énervez pas après l'ennemi. Sachez dire, voilà, il y a une montagne, j'ai confiance, Seigneur, que tu peux la déplacer. Moi, je crois, Seigneur, que tu veux le faire. Apprenons à prier dans notre cœur, à mi-voix, dans l'église, quand on est seul. C'est bien de prier à deux ou trois, est-ce que c'est bien? Voilà, que vous soyez seul, que vous soyez à plusieurs, que vous soyez dans une grande assemblée, qu'importe, ce qui est important, Dieu regarde au cœur. Alors on le relit pour terminer. Hein. Ayez foi en Dieu. Voilà, ça c'est le mot d'ordre, je le répète. Pas n'ayez pas foi dans vos prières, n'ayez pas foi dans votre foi, n'ayez pas foi dans ce que vous faites, ayez foi en Dieu. Quand vous priez, vous devez avoir foi, quand vous ne priez plus, vous devez avoir exactement la même foi. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, alors c'est sûr que vous n'allez pas répéter, ah ça y est, j'ai compris. Ôte-toi de là, alors pas de problème. Ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. Vous voyez, c'est ça les formules. Mais je suis sûr qu'il y en a qui l'ont fait. Je suis sûr qu'il y en a qui ont répété en boucle, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. Maladie, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Maladie, voilà. Mais alors que dans leur cœur, ils ne le croyaient pas. C'est pour ça que Jésus fait bien d'ajouter, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Oui, je vous le répète, je termine avec un verset de Jérémie, des lamentations de Jérémie. Hein, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Vous entendez? Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Le Seigneur sur la croix, tout accompli. Les montagnes, elles se présentent. Elles ne doivent pas s'installer. Par contre, veillez-y à cela. Veillez-y. Elles ne sont pas faites pour y rester 40 ans comme les Hébreux dans le désert. Les montagnes, on doit croire que Dieu a le pouvoir de les déplacer. Vous le croyez ça? Est-ce que vous avez un problème ce soir qui est là depuis des quelques mois, des semaines, des années? Eh bien, on va fermer les yeux quelques instants. Vous voulez bien? Peut-être que vous pensez à un problème alors qu'on est recueilli. Peut-être que vous pensez à une situation qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Quelque chose qui est là, qui a pris de plus en plus d'importance. Moi, je crois que Dieu, comme on l'a dit, s'il fait des promesses, c'est parce qu'il veut les accomplir. S'il nous enseigne à déplacer des montagnes, c'est parce qu'il faut qu'on les déplace. Qui ce soir dit, oui, moi j'ai confiance en toi, Seigneur. Je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas confiance en mes prières, je n'ai pas confiance à grand chose, mais cette foi, la foi, elle est en toi. Eh bien, attendez-vous au Seigneur. Attendez-vous vraiment au Seigneur. Notre Père, notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants d'avoir, en quelques mots, enseigné les hommes à savoir comment ils devraient se comporter pour prendre des victoires. Nous le croyons, Seigneur Jésus, que sur la croix, tu as tout accompli pour que dans tous les domaines, que ce soit matériel, que ce soit physique, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit la guérison, vraiment, Seigneur, tu as tout accompli pour que nous puissions voir chacune de ces montagnes s'enlever. Tu savais ce que nous partagerions ce soir, tu savais qui viendrait dans ce lieu. Oui, Jésus, nous voulons croire de tout notre cœur qu'un homme peut mettre toute sa confiance en toi. Seigneur, vraiment merci pour ces moments. Merci pour ta parole, merci pour ces chants. Garde-nous, Seigneur, de pensées, de doutes. Garde-nous du doute des autres. Garde-nous, Seigneur, des attaques de l'ennemi aussi qui essaie de détruire notre foi. Et donne-nous d'avoir cette espérance vivante. Oui, que si tu as fait des promesses, c'est pour les accomplir dans notre vie. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Amen.